Daniel a déjà dit beaucoup là sur la frontière, donc je vais pas passer, je vais pas vous dire grand-chose sur la frontière, à part que bon, c'est quand même la frontière palestinienne qui était la plus longue à dessiner, étant entre la France et l'Angleterre, et que elle divise encore aujourd'hui des espaces régionaux qui sont encore en cours de fixation, peut-être d'autant plus pour le sud Liban que pour le nord d'Israël. Et en fait, ça reste une construction sociale et imaginaire en devenir. Le but de mon article, en fait, et de ma recherche, c'était d'essayer de réfléchir sur la production d'une frontière israélo-libanaise par la pratique et l'intériorisation qu'en font les habitants de ces confins, les borderlanders, si on veut, en même temps, sans pour autant ne pas prendre en considération justement les forces structurantes par le haut. Donc c'est un peu, j'essaie de travailler un peu sur les deux niveaux. Si vous vous rappelez de l'année dernière, en fait, j'ai comparé deux formes de migration de traversée de la frontière avec des Libanais qui habitent désormais en Galilée et qui sont pour la plus grande majorité des citoyens israéliens désormais. Dans ma méthodologie, en grande partie, je me suis inspiré beaucoup du livre de Malki sur les réfugiés Hutus, dans des entretiens et aussi beaucoup d'observations participantes. Juste deux mots rapidement sur la frontière ici. Évidemment, je ne considère pas tant la frontière pour sa limite spatiale d'une souveraineté territoriale, enfin ça rentre en jeu aussi, mais je suis plus concerné par la frontière comme une spatialisation de l'ordre national ou de cosmologie nationale. Autre chose très rapidement, dans cet aspect-là de la frontière, les politiques frontalières vont plutôt laisser certaines formes de migration visibles, alors que d'autres vont être invisibles. Je vais essayer de illustrer ça avec le cas des Libanais, de montrer comment en fait l'ordre cosmologique, en fait, il réussit à récupérer certaines formes de migration, alors que d'autres formes de migration ne sont pas tellement récupérables par l'ordre cosmologique national, et du coup, il va être laissé plutôt en silence. Je vais passer rapidement maintenant. Alors, une idée clé en fait de toute mon approche, c'est que la Galilée, elle est en quelque sorte double. Alors, elle a beaucoup de particularités, je pense, dans l'espace israélo-palestinien d'une manière générale. L'année dernière, j'avais employé le terme secteur, il avait pas été très bien pris par tout le monde. Peut-être que je l'avais utilisé un peu rapidement. On avait dit que je prenais un peu le langage du gouvernement israélien. Ici, je parlais de deux géographies, c'est pas très très joli, mais. Ça se base notamment sur le fait que les Palestiniens de citoyenneté israélienne, en fait, ils ont une place périphérique qui est très différente dans la construction nationale israélienne, et que la frontière israélo-libanaise, en fait, évidemment, ça participe de la production d'une cosmologie nationale israélienne. Donc, on voit assez rapidement comment les Palestiniens, donc, ils puissent avoir un rapport tout à fait différent à cette frontière israélo-libanaise par rapport aux Juifs de nationalité israélienne. Autre particularité, donc ça pourrait être dit pour toutes les frontières israélo-palestiniennes, enfin, de la Palestine britannique. Maintenant, une des particularités de la Galilée, c'est vraiment que c'est une région naturelle et qui est civiquement homogène, c'est-à-dire que le statut civique est partagé par tous, c'est-à-dire c'est pas la ligne verte avec, c'est pas Jérusalem, c'est différent à ce point de vue-là, homogénéité civique et composition démographique également partagée entre Arabes et Juifs, presque 50%, 50%, et que la répartition spatiale de ces deux populations ne sont pas exactement homogènes, mais sont pas très loin. Enfin, c'est une répartition assez bien. Je cite juste Oren Yeftachel qui parlait d'une région arabe fracturée fonctionnant, enfin ça c'est pas lui, région arabe fracturée c'est lui, moi j'ai rajouté un peu fonctionnant, non, pardon, c'est lui, fonctionnant comme une seule unité politique, culturelle et sociale, un peu comme un collier de perles connectant des espaces discontinus. Je vais rapidement vous montrer les cartes, donc le petit jeu de cartes que j'ai essayé de faire. Alors, ça, c'est, on ne voit pas grand-chose, c'est blanc, c'est l'espace sud-libanais à Galilée. Ça, c'est, je n'ai pas fini le travail des cartes. Toutes les petites taches noires sont des villages ou des villes arabes existantes aujourd'hui. Vous ne voyez pas encore la frontière, c'est normal, elle va venir. Ce que je n'ai pas mis ici, c'est les villages détruits ou dépeuplés par Israël suite à 48. J'aurais voulu, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, en fait, l'espace vide là que vous voyez déjà, c'est déjà la frontière qui se dessine par la dépopulation suite à 48. Voilà la frontière israélo-libanaise qui est en fait la frontière franco-britannique mandataire. Voilà les noms des villes et villages arabes. Ce que vous voyez du côté israélien maintenant, c'est ce qui reste. C'est-à-dire, il y en avait beaucoup plus évidemment. Les espaces blancs, c'est là où on a dépeuplé. Et en fait, j'ai mis ça pour essayer d'illustrer le contact en fait qu'il y a pu y avoir avant la création de la frontière entre ces deux espaces, c'est-à-dire la Haute Galilée et le Jabal Amel du sud Liban. Maintenant, de nouveau vide. Enfin, c'est pas exactement parfait ces cartes, mais voilà, population juive. Alors, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Voilà notre frontière. Et j'ai gardé ça, vous voyez, l'espace blanc, c'est pas que Israël, les Israéliens qui pratiquent la Galilée ont en tête un espace vide quand ils pensent au Liban, notamment grâce aux occupations et le fait que beaucoup de gens ont fait leur service militaire, ils ont une géographie libanaise dans la tête, mais quand même, ça me permet d'illustrer mon idée de rapport à cette frontière israélo-libanaise différente selon les deux Galilées. Voilà, bon. Désolé, le nom des villes. Voilà, maintenant vous voyez dedans la constellation de la deuxième Galilée. Donc ces deux Galilées, une Galilée arabe, une Galilée juive, qui cohabitent, qui partagent cet espace ensemble, mais qui ont un rapport différencié à la frontière. Cette Galilée arabe peut parfois encore, c'est ce que je vais essayer de démontrer aussi dans le papier, se projeter même socialement dans ça, dans l'autre côté de la frontière. Combien de temps? Désolé. Bon, Daniel a parlé de ça déjà un peu, donc je vais être un peu rapide. Voilà, où est la frontière? Alors, évidemment, entre 1976 et l'an 2000, il y a un brouillage de cette frontière. Vous voyez ici des choses dont Daniel a parlé déjà un peu. Enfin, 1976 commence la politique de la bonne frontière, c'est-à-dire les Israéliens permettent le passage de la frontière à certains Libanais. Daniel a parlé de discrimination. Et c'est en même temps le début d'un contrôle spatial du sud Liban qui est effectué à partir de villages maronites qu'on va voir très bientôt sur la carte. Enfin, pas sur celle-ci, mais je vais vous montrer une autre carte bientôt. Si vous voyez où se trouve Bint Jbil, près de la frontière, ici il y a une petite nébuleuse de villages maronites. Et ensuite, près de Klaya, près de Marjayoun, plus haut là-bas. Donc un début de contrôle territorial du sud Liban et l'embryon de ce qui va devenir l'ALS. Des opérations militaires que vous connaissez tous, je pense, 78, l'opération Litani, ensuite 82, l'occupation du sud Liban et en 85, la transformation de la situation en un status quo de la bande de sécurité. Alors, voilà, pardon. Donc ici, on a la belle frontière israélo-libanaise, la frontière franco-britannique. Là, les deux lignes à différents moments de la bande de sécurité sur le sol libanais. Et alors, c'est un peu provocateur ce que je viens de faire en effaçant la frontière israélo-libanaise. C'est pas qu'elle était vraiment effacée, mais c'est juste, c'est un peu pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a un brouillage de la frontière. Et maintenant, quand on regarde la carte, même bon, noir et bleu, c'est pas génial d'où vous êtes pour voir bien qu'est-ce qui est arabe ou juif. Mais on voit rapidement comment les événements militaires et l'occupation, la souveraineté israélienne qui commence à dégouliner un peu de l'autre côté de la frontière ou se déverser petit à petit pendant cette période, participe du brouillage de la frontière. Donc en fait, pour moi, à partir des années 70, alors pour moi, juste vivant la chose a posteriori et limité personnellement par cette frontière, c'est-à-dire je ne peux pas aller de l'autre côté voir un peu ce qui se passe, j'aurais qualifié cette période d'un débordement de la frontière, un glissement graduel de souveraineté israélienne en territoire libanais. Et en quelque sorte, l'ancienne frontière franco-britannique est repoussée vers le nord. Pendant 24 ans, ce brouillage de la frontière politique et des espaces de souveraineté permet aussi un rapprochement du sud du Jebel Amel et de la Haute-Galilée, qui depuis les années 20, mais surtout depuis 1948, bien sûr, subissent des dynamiques. Alors c'est un mot un peu centripète, je regarde ça dans le dictionnaire. Enfin, je voulais dire centrifuge, mais centripète, c'est en gros... c'est le contraire de centrifuge, mais en gros des espaces qui sont soumis à des dynamiques centripètes pendant depuis les années 20, mais surtout depuis 48, tout d'un coup ne les subissent pas de la même manière. Bon, j'arrive à mon premier groupe, je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement, en plus nombreux parmi vous, peut-être vous vous rappelez déjà, j'ai parlé de deux migrations, ou à la rigueur deux traversements de la frontière, et notamment selon où ces personnes sont atterries. Alors mon premier groupe, c'est des femmes libanaises. Donc en fait, ces femmes, c'est des personnes qui sont venues justement dans le contexte de la bande frontière. Elles ont traversé la frontière pour travailler quotidiennement en Israël. Je pense, oui, j'ai mis ça, c'est 2500 personnes par jour pendant les plus grands moments du fonctionnement de cette frontière. Ces personnes qui traversaient la frontière, travaillaient en Israël et revenaient souvent quotidiennement. Alors, une condition importante, Daniel a parlé de discrimination, et justement, il y avait une politique israélienne qui permettait à des membres de l'ALS, enfin des gens qui avaient des membres de leur famille étaient dans l'ALS, d'avoir un permis de travail en Israël pour un membre par famille. Alors, des informations que j'ai recueillies, c'est pas toujours appliqué à la lettre, certaines personnes en envoyaient plus, certains moins. Pour mon analyse, c'est très important parce qu'en gros, les femmes libanaises dont je vais vous parler même rapidement viennent des mêmes villages d'où viennent les soldats de l'ALS qui vont venir en 2000 avec le retrait israélien. Ils viennent des mêmes villages, souvent il y a même des liens de parenté qui joignent ces personnes. Donc voilà, parmi ces femmes, alors c'était pas que des femmes qui sont venues travailler, c'est des hommes aussi, mais des femmes parmi ces personnes se sont mariées avec des citoyens israéliens. Alors seulement des Arabes, non, pas seulement des Arabes, aussi des Juifs. Voilà, par contre, sur ces personnes-là, ça c'est la migration dont je vous ai parlé avant, ça c'est la migration invisible. Enfin, invisible c'est un grand mot, mais c'est la migration qui n'a pas été récupérée par l'ordre national ou l'ordre cosmologique. Quand moi je parlais avec Yossi Peled, même qui vient de recevoir le bureau qui est chargé de l'ALS en Israël depuis 2010, en fait ces personnes ignorent, font semblant d'ignorer ou vraiment ignorent parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce phénomène. En gros, je n'ai jamais réussi à avoir quelqu'un avec une position officielle une remarque sur ces femmes. C'est comme si elles n'existent même pas. Donc moi pour les retrouver, c'est juste de fil en aiguille, avec des longs séjours en Galilée, que j'ai rencontré un cas, c'était pas si intéressant, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, ensuite un quatrième, et je commençais à me demander si c'était quelque chose qui méritait la peine de regarder. Donc j'ai pas des chiffres, je suis pas un bureau du gouvernement, donc j'ai recueilli 40 personnes. 40 personnes, voilà certains des détails. La majorité est installée à Al-Mazra Fasoutajish, que je vais vous montrer très rapidement. Toutes ces femmes viennent de Debel, Ein Ebel et Ermish, que je vais vous montrer très bientôt aussi sur la carte. Vous allez voir que tout ça, ça a un sens parfait. La plupart sont chrétiennes, à part une sur 40. Et elles sont mariées, surtout avec des hommes chrétiens, c'est pas très étonnant. J'ai relevé 3 cas avec des hommes juifs, vivant dans des villes juives, et 2 avec des musulmans, mais une de ces 2 femmes est musulmane elle-même. Voilà, alors ça, c'est juste pour vous donner une idée, enfin c'est comme ça que je voulais voir un peu la chose. Là, vous voyez de nouveau la situation pendant la bonne frontière. Vous voyez les villes libanaises, les villages libanais, les villes libanaises, et vous voyez la Galilée arabe, la géographie arabe de la Galilée, vous voyez la frontière israélo-libanaise franco-britannique qui n'est plus là. Alors où est-ce que ces femmes vont s'installer? J'espère que ça va être visible, regardez bien, ça va devenir vert. Bon. Voilà. C'est Fasoutajish et Al-Mazra. Et ces villages sont tous très proches de la frontière. On ne le voit pas très bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans la période bonne frontière. Donc la frontière libanaise, israélo-libanaise, elle a un sens là, mais elle a un tout petit peu moins. Mais maintenant, ah oui, j'ai raté quelque chose, je n'ai pas réussi mon PowerPoint, désolé. J'aurais bien aimé vous remettre la frontière libanaise juste maintenant pour voir combien ils sont proches. Mais ici, vous les voyez de nouveau Fasoutajish à droite. et Al-Mazra. Alors, ce que j'ai fait sur cette carte-ci, c'est que j'ai rajouté pas tous les villages arabes détruits après 48, mais certains, juste certains qui appuient mon exposé. Vous voyez Kufar Beram, qui est en haut à gauche du village de Jish, qui aujourd'hui est détruit, mais la population se trouve pour la plupart en Israël, à part une partie aussi qui est allée à Ermish, justement, que vous voyez de l'autre côté de la frontière. Vous voyez Ikrit aussi, juste en haut à gauche de Fasuta, qui aujourd'hui est détruit. Et vous voyez aussi plus loin, le long de la frontière, Al-Bassa. Al-Bassa aussi, aujourd'hui détruit. Donc, du côté libanais, vous voyez Debel Ein Ebel, Ermish, Kaouza, juste à côté de Ben Jebel, c'est tous des villages maronites. Et si je ne me trompe pas, c'est une question pour ceux qui fréquentent plus le Liban, il y a peut-être des Grecs catholiques aussi. Et Yaroun, je pense, c'est un village mixte. Alors, ces villages entretenaient des relations très proches, même pendant la période mandataire, des mariages, des liens économiques. Et en fait, la période de la Bonne Frontière, en fait, ça a permis un peu un renouveau de ces liens qui étaient mis en stand-by sur un moment. Voilà un peu un cercle que je dessine autour de cette nébuleuse de villages maronites et chrétiens qui sont en fait entourés, qui sont un peu minoritaires dans leur espace. C'est-à-dire, les villages maronites du côté libanais sont entourés de... Enfin, ils sont dans un espace surtout chiite. Et du côté israélien, ils sont surtout dans un espace sunnite et druze aussi. Je voulais illustrer cette idée de renouveau des liens. Malheureusement, mes notes sont restées à l'hôtel, donc je vais vous faire ça très rapidement, l'histoire d'une femme de mémoire. Donc, une femme qui est originaire de Debel. Elle est née à Debel dans les années 30. Juste un peu avant la guerre de 48, elle est venue avec son frère à Haïfa, qui n'est pas sur la carte, un peu plus bas. Pourquoi Haïfa? Elle avait des proches qui se trouvaient à Haïfa. Haïfa était en boom avec les investissements britanniques. Enfin, voilà, encore une période où la Galilée, le sud Liban, c'était très naturel d'aller d'un espace à l'autre. Cette femme arrive avec son frère à Haïfa. Là-bas, elle rencontre son futur mari. Son futur mari est originaire de Elbassa, que vous voyez ici en haut à gauche. Aujourd'hui, c'est Shlomi, là où se trouve la ville de Shlomi en Israël. Donc, son mari vient d'Al-Bassa, 48, guerre, on évacue Haïfa, ils se déplacent, ils arrivent à Al-Bassa, famille du père, du mari. Bientôt la guerre rattrape Al-Bassa, ils quittent Al-Bassa. Ils sont évacués d'Al-Bassa, plus précisément. Quand ils sont évacués d'Al-Bassa, ils sont parqués, comme ce qui s'est passé tout le temps dans la guerre de 48. En fait, certains villages dépeuplés, d'autres villages sont devenus comme des lieux de rassemblement. Al-Mazra, que vous voyez ici au sud de Naharia. Aujourd'hui, Naharia, Al-Mazra, ça se touche, quoi. Mais Al-Mazra est devenu un de ces villages de Galilée où on a placé beaucoup de déplacés internes. Ces personnes-là se sont retrouvées à Al-Mazra. Qu'est-ce qui se passe? La frontière israélo-libanaise se crispe au fur et à mesure à partir de la guerre de 48, ce que en langage israélien s'appelait les infiltrés, dont on a parlé hier. Renforcement de la frontière, il n'y a pas moyen de visiter les membres de la famille qui, j'espère que vous êtes tous avec moi encore, de Debel. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? La bonne frontière. À partir de 1976, c'est pas la fête, mais on peut tout d'un coup revenir au village d'origine, à Debel, à partir de Al-Mazra, et faire des visites de famille. Donc il y a toute une série de visites familiales qui vont se faire à travers la frontière. Des gens qui sont de Al-Bassa, mais qui vivent à Al-Mazra, parce qu'Al-Bassa est détruit, vont à Debel, et vice-versa. Mais pas seulement ça, les liens de mariage se répètent. Donc la femme avec qui j'ai commencé l'histoire, elle a trois fils. Deux fils, pendant la période de la Bonne Frontière, ont trouvé des femmes de Debel et se sont mariées avec des femmes de Debel. Les deux femmes de Debel sont aussi des proches de la famille de la femme avec qui j'ai commencé l'histoire. Et tout ce monde habite aujourd'hui à Al-Mazra. À partir du moment où la frontière, le retrait israélien en 2000 a eu lieu, fermeture de la frontière, fini les visites. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que si on regarde cet exemple de près, en fait, on a dans l'espace de juste deux générations une succession de mariages entre famille de Debel et famille de Al-Bassa. Al-Bassa qui n'existe plus, mais qui est aujourd'hui, la communauté se trouve à Al-Mazra. Et ces échanges, en fait, n'ont été que suspendus momentanément pendant la période 48-76. Je vais passer rapidement sur l'armée du Liban Sud. Je pense que Daniel en a parlé déjà un peu. Enfin, donc en 2000, donc on a le retrait israélien, donc la frontière va se crisper de nouveau. Ce brouillage des espaces souverains dans le sud Liban se précise un peu de nouveau. Et en fait, on a, comme vous savez tous, l'arrivée massive d'anciens soldats de l'ALS en Israël. Alors, les autorités israéliennes se seraient attendues peut-être à quelques 500 individus. Et plutôt, c'était 6500 jusqu'à 7000 personnes qui ont franchi la ligne au mois de mai de l'an 2000. Ça, c'est juste quelques statistiques. Alors, évidemment, ici, c'est plus les femmes libanaises dans les villages arabes de Galilée sur qui il n'y a aucune statistique. Là, par contre, on est exactement dans le domaine de la récupération par l'ordre national d'un phénomène migratoire et on a des statistiques. Évidemment, les statistiques là que je vous donne, 2010, qu'en 2010, il y avait 2750 personnes, ça c'est le gouvernement israélien et le nouveau bureau gouvernemental qui vient d'être créé par Netanyahu en l'an 2009. 90% a priori auraient la citoyenneté israélienne maintenant. Alors évidemment, ça c'est les statistiques produites par le gouvernement israélien. Évidemment, on a des réponses différentes sur le terrain et ça devient très politique. Pareil pour toute forme de statistiques, c'est-à-dire la composition confessionnelle même de ceux qui sont restés ou pas. Par contre, voilà, ils sont installés. Donc, ce qui était important pour mon analyse, c'est où est-ce que ces personnes se sont installées. Désolé, une chose avant, pour pas que je brûle l'ordre, c'est justement pour moi, en fait, les réfugiés de l'ALS sont des personnes qui ont été récupérées par l'ordre national. Je voulais juste lire ça. Alors qu'aux années 1976-2000, donc la période de la bonne frontière, la frontière israélo-libanaise arc-boutée vers l'extérieur, là j'emprunte à des vocabulaires de Rajaram et Gary Ward, que je vous donnerai la référence après, qui parlait de la flexibilité justement de la frontière. Donc pendant les années 76-2000, la frontière israélo-libanaise arc-boutée vers l'extérieur libanais, avec l'arrivée de 6500 Libanais de l'ALS en mai 2000, elle a plié subitement vers l'intérieur israélien en y introduisant, alors c'est juste métaphorique, mais une boule d'air d'altérité. Enfin, si on prend la frontière internationale comme une frontière symbolique qui produit, qui participe à la production d'une norme et d'une altérité, ici, avec l'événement de 2000, en fait, on a une altérité qui vient de percer dans l'espace israélien. Et surtout, il a percé l'espace israélien de manière visible et difficilement, on ne peut pas trop le cacher. Donc du coup, l'ordre national va être obligé de récupérer cet événement. Donc arrachés à leur emplacement par des événements politiques qui les ont dépassés, ces 6500 Libanais sont devenus, selon les termes de Grundy Ward, alors je préfère les citer en anglais parce qu'en français ça donnait un peu moins drôle, mais « lost in sovereign space », perdu dans l'espace souverain. Je pense que ça perd un peu dans le français. Cette perturbation, alors moi j'emploie le mot perturbation, mais c'est presque une métaphore météorologique cette fois, enfin c'est pas quelque chose qui dérange forcément, mais franc chaud, franc froid, une perturbation qui se crée. Cette perturbation dans l'ordre national des choses, ça c'est Malki, que je pense que vous connaissez, était trop visible et trop médiatisée pour être consignée immédiatement à des espaces d'invisibilité par les autorités. De fait, l'anomalie devait être récupérée et intériorisée par l'ordre souverain. Ça, c'est quelque chose de Agamben, qui parlait, je pense, de l'altérité à l'ordre national par rapport à l'altérité. Soit ce qu'il réussit à intérioriser, il va l'intérioriser, le trafiquer, le rassembler. Et ce qu'il ne peut pas, il va l'extérioriser. Dans le sens abstrait, alors, je me permettais juste ça, après on peut en discuter, mais je pense même Deleuze Guattari, et j'ai peur avec Jackie ce que tu vas me dire, mais on va voir, que même dans le sens abstrait qui attache Deleuze et Guattari, pour moi, l'ALS a été momentanément déterritorialisé, et ils vont être reterritorialisés par l'ordre national. Et ça, c'est pas, sans, je dis Deleuze-Guattari parce que là, j'en parle pas dans le sens strictement territorial, géographique, mais dans le sens abstrait. Bon, j'ai 5 minutes, donc en fait, je voulais partager avec vous des. Donc très rapidement pour les cartes, de nouveau, vous voyez, on n'a plus la frontière israélo-libanaise. Là, du coup, je ne suis pas en train de parler des femmes libanaises, je suis en train de parler de l'ALS. Ça, c'est comme leur vision. Regardez ce qui va se passer. Pour l'ALS, ils vont être rejetés par la géographie arabe de Galilée. Là, vous la voyez, la géographie arabe de Galilée, elle disparaît. En fait, l'espace arabe galiléen devient fermé aux ALS, ils sont rejetés. Alors que dans l'ordre cosmologique israélien qui va récupérer les ALS, il s'appelle Tzadal, Tzadal Nekim. C'est un mot, enfin, on en parlera peut-être dans la discussion, je zappe, mais dans la Galilée arabe, il ne s'appelle pas Tzadal Nekim, évidemment, il s'appelle Amel et collaborateur. Cet espace devient fermé, ça se traduit par des bagarres, des voitures cassées, un tas de petites choses. Et l'espace qui reste ouvert, c'est l'espace juif galiléen que vous voyez en bleu. Alors où est-ce que ces personnes s'installent? Là, ça va être visible, je pense, parce que ça devrait apparaître en rouge. Voilà. Ça, c'est où se trouvent les anciens membres de l'ALS aujourd'hui. Donc maintenant, on a quand même le retrait israélien de mai 2000. Il faut que, historiquement, je change la carte. C'est ce qu'on va faire. La bande de sécurité, c'est pas qu'elle change parce qu'on connaît bien les Nations Unies, UNIFIL, ça c'est. Ça, c'est les Libanais, ceux du Liban qui vont en parler. Mais frontière israélo-libanaise revient, bande de sécurité disparaît, on a de nouveau notre Galilée. Mais là, on a la Galilée juive avec une injection de ALS dedans, avec une production de sens cosmologique pour la frontière israélo-libanaise, renforcée sur le modèle État-nation. Nous sommes Israéliens, vous êtes Libanais, enfin. Voilà. Mais maintenant, il nous manque encore quelque chose, c'est la Galilée arabe. Non. Ah bon, je sais pas, je me suis trompé. Bon. Je sais plus où ils sont partis, c'est pourquoi ils sont pas là. Bon, désolé. L'effet a été raté. Mais bon, je voulais aussi partager avec vous, je pense que je vais pas le faire faute de temps, mais je voulais partager avec vous un peu certains résultats de terrain de l'année 2009-2010, ou tout simplement un bureau gouvernemental israélien a été initié et mis sur pied sous l'autorité de Yossi Pellet, qui était l'ancien commandant de la région Nord et qui est un spécialiste de ALS. Et ce bureau a été créé, et au jour de la. Enfin, pour marquer exactement 10 ans de l'existence, enfin, de la présence de l'ALS sur le sol israélien, les ALS ont tous été invités à la Knesset un jour, pour leur présenter ce magnifique nouveau bureau qui était censé faciliter faciliter leur intégration en Israël. Il y a eu plusieurs problèmes sur l'intégration dont je ne vais pas parler ici, et je fais très vite, je vous donne peut-être dans la discussion, mais tout simplement c'était un épisode rempli de moments très anecdotiques de la production de cette cosmologie État-nation. Et le rôle que l'ALS devait jouer dans cet ordre cosmologique. Moi, dans cette recherche, je ne voulais pas me concentrer sur la production de cette structure par le haut. Je voulais surtout parler de comment les gens par le bas le consomment, le reproduisent dans le quotidien. Dans l'article, je fais un peu des deux. Peut-être est-ce que je peux avoir 2 minutes et alors je lis la conclusion. D'accord. Donc je vais lire cette conclusion en essayant de la rendre moins ennuyeuse. Mais dans son étude sur des réfugiés Hutus en Tanzanie, Malki, elle décrit leur insertion dans 2 lieux sociologiques différents. Une fois, c'est la ville cosmopolite frontalière de Kigoma. L'autre, c'est le camp de réfugiés de Michamo. Chacun de ces lieux sociologiques participe de manière différente à la production d'ordres cosmologiques nationaux. Lieu de pouvoir et d'ordre national par excellence, le camp de réfugiés Michamo est devenu un locus privilégié de production de modèles essentialistes et de reconstruction d'une nation Hutu sur la base de l'expérience de l'exil. Les personnes habitant le camp étaient quotidiennement impliquées dans l'élaboration de ce que Malki appelait une mytho-histoire, exprimant un nouvel ordre cosmologique dans lequel des groupes comme Hutu, Tutsi, communauté internationale, trouver un sens sublime. Dans le cas des ALS, récupérés et reterritorialisés par l'ordre national régional, les anciens de l'ALS, après avoir momentanément déterritorialisés et perdus dans l'espace souverain, lost in sovereign space, participent d'une manière similaire de la reproduction et du renforcement de ces catégories essentialisées. Je ne vous ai pas donné beaucoup d'exemples, faute de temps. Mais la division cosmologique que spatialise la frontière israélo-libanaise, c'est où ? Pardon. Entre une entité israélienne et une entité libanaise est intériorisée et reproduite dans le quotidien de manière habile et inédite. Ça, c'est ce que je ne vous ai pas donné les exemples ici, mais l'année dernière, j'en ai donné, je pense. Alors, par contraste, les Hutus de la ville frontalière de Kigoma avaient, eux, réussi à échapper au contrôle tanzanien et pratiquer ce que Malki appelle des stratégies d'invisibilité. Peu occupés à l'élaboration d'une mytho-histoire ou d'un nouvel ordre cosmologique, les conditions de leur nouvelle vie urbaine exigeaient plutôt un jonglage habile et pragmatique entre catégories élaborées ailleurs. Irrécupérable par l'ordre national, la migration de femmes libanaises dans les villages arabes de Galilée se fait de manière discrète et invisible. Mais à la différence des Hutus de Kigoma, ces femmes libanaises ne font pas tant un jonglage habile de catégories, plutôt elles les abandonnaient. Ça c'est basé sur mes terrains, que je n'ai pas détaillé ici. Mais pour elles, ces catégories empruntées aux cosmologies nationales ont peu d'utilité dans le quotidien des villages arabes galiléens. La migration transfrontalière de ces femmes semble s'inscrire dans une longue durée brodélienne, plutôt que dans l'événementiel politique de l'ordre national. Et elle accuse de ce fait un besoin limité de mytho-histoire. La division cosmologique que spatialise la frontière israélo-libanaise s'en trouve brouillée. Les Hutus de Kigoma et les Hutus de Michamo, dans le livre de Malki, c'est un point très très intéressant, ont fini par développer un mépris mutuel, les uns pour les autres. Pour les Hutus du camp de réfugiés de Michamo, ceux de la ville incarnent une menace de pollution de la pureté conceptuelle du Hutu, qui est en train d'être élaborée dans le camp de réfugiés, et que l'on situait dans l'idéal de l'exil. Par contraste, les Hutus de la ville sont effrayés par le spectre de la vie dans le camp, producteur de codes tyranniques qui ne ménageaient pas d'espace pour les modes de vie auxquels ils aspiraient. Chez les anciens ALS, une préférence à ne pas voir les Libanaises vivant dans les villages arabes de Galilée est manifeste, aussi bien que celle de l'administration. Mais ce déni n'est pas réciproque. Les femmes libanaises sont très bien au courant de l'existence de l'ALS et au-delà même, ils se fréquentent. Donc je propose en fait que la présence discrète des femmes libanaises dans les villages arabes de Galilée, elle est en fait plus déstabilisante et polluante pour l'ordre cosmologique des anciens de l'ALS que l'inverse. Maintenant je termine juste sur un mot sur la Galilée, parce que c'est ça peut-être la partie importante ici. Les deux cas de Libanais en Galilée étudiés ici montre que telle migration transfrontalière peut s'accompagner d'une intériorisation accrue de l'ordre cosmologique spatialisé par la frontière, alors que telle autre peut au contraire participer de son brouillage. Le fait que les deux migrations libanaises étudiées soient issues des mêmes milieux sociologiques libanais, c'est-à-dire les mêmes villages et parfois les mêmes familles, mais participent de l'élaboration d'imaginaires spatiaux et cosmologiques différents, offre l'occasion de considérer la particularité de la Galilée, animée par ces deux géographies et ces deux lectures de la frontière israélo-libanaise. D'un côté, une Galilée arabe, malheureusement, j'ai pas la bonne carte là, ici, amputée à partir de 1948 et spatialement contenue entre 48 et 66 avec le régime militaire, continue de nourrir des pratiques et des conceptualisations spatiales qui antidatent la cristallisation de la frontière israélo-libanaise et, par le même coup, peut encore se penser ou s'imaginer socialement au-delà de la division géographique qu'elle impose et surtout de l'imaginaire cosmologique qu'elle produit. De l'autre côté, une Galilée juive plus étroitement impliquée dans le projet national israélien est un consommateur plus avide de l'ordre national spatialisé par la frontière israélo-libanaise, qui érige une norme israélienne contre une altérité arabe. Les Libanais du Sud, citoyens israéliens désormais, participent du rapport respectif que chacune de ces deux géographies galiléennes entretient avec la frontière israélo-libanaise, contribuant, dans un cas comme dans l'autre, au processus, pas contestataire, mais conflictuel de sa production sociale.